Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Dès le lendemain de son élection, le pape François s'était rendu dans la basilique Sainte-Marie Majeure pour se recueillir devant le tableau de la Vierge et lui confier son nouveau ministère. La fin du mois de Marie aura été pour lui une nouvelle occasion d'encourager la dévotion à la Vierge. Nous vous ferons découvrir dans ce magazine une neuvaine qui lui est chère. Communiquer avec l'Église universelle et restaurer la réputation du Saint-Siège, ce sont les deux principaux objectifs que l'Institut pour les œuvres de religion s'est fixé cette année. L'IOR n'a rien à cacher, assure le nouveau président nommé en mars dernier. Des graffitis comparant les chrétiens à des singes et appelant à la vengeance contre Jésus ont été tagués sur un mur de l'abbaye de la Dormition, tenu par une communauté de moines bénédictins allemands à Jérusalem. Pour le Saint-Siège, il est urgent de favoriser la réconciliation intercommunautaire et le respect des droits des minorités ethniques et religieuses. Le divorce entre l'Église et l'art contemporain est dû à des préjugés, des malentendus et à la informations. Nous en parlerons en fin d'émission à l'occasion de l'inauguration du pavillon du Saint-Siège à la Biennale de Venise. L'image de la Vierge portée en procession à travers la place Saint-Pierre comme pour recueillir les invocations des fidèles, c'est sans aucun doute l'un des moments les plus forts qui resteront de ce 31 mai à Rome. Traditionnellement, c'est dans les jardins du Vatican que se déroule la procession conclusive du mois de Marie. Mais cette année, la prière du chapelet a été organisée sur la place Saint-Pierre en présence du pape François afin de favoriser une plus ample participation à la prière mariale. D'autant que le Saint-Père a recommandé personnellement à plusieurs reprises de prier le chapelet, si possible en famille, et de s'en remettre à la Vierge dans notre vie. Le pape François, qui ne cache pas sa grande dévotion à Marie, avait ouvert solennellement le mois de mai par la prière du rosaire dans la basilique romaine Sainte-Marie Majeure. Dans sa méditation, il avait souligné que la Vierge Marie nous aide à grandir, à affronter la vie et à être libre. Ce vendredi soir, la prière a été confiée au cardinal Angelo Comastri, vicaire général pour la Cité du Vatican, laissant le pape François conclure par une méditation. Ce n'est pas une première car en 2008, Benoît XVI avait lui aussi présidé la conclusion du mois de Marie place Saint-Pierre au cœur de la catholicité. Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir une neuvaine de plus en plus répandue dans le monde entier. La neuvaine à Marie qui défait les nœuds, à laquelle le pape François n'est pas étranger. À l'origine de cette neuvaine, le tableau d'un artiste allemand peint en 1700, à la demande d'un couple ayant échappé à une séparation grâce au conseil et à la prière d'un jésuite. L'œuvre, qui représente la Vierge dénouant les nœuds d'un ruban que lui tend un ange, était connue uniquement en Bavière. En 1984, le père Bergoglio, qui séjourne en Allemagne, découvre le tableau et regagne l'Argentine avec plusieurs petites cartes le représentant. Une reproduction placée dans une paroisse populaire de Buenos Aires va alors attirer des milliers de fidèles et amener ensuite le curé à rédiger une neuvaine à Marie qui défait les nœuds à partir d'une prière écrite par le père Bergoglio. Puis un petit livret contenant ces textes voit le jour. Il est aujourd'hui traduit en plusieurs langues, dont le français. Nous avons interrogé son éditeur, Dominique Chollet.
Beaucoup de personnes qui viennent me voir ou qui m'écrivent de façon spontanée en disant « Eh bien, dans le cas présent, j'ai demandé ceci, j'ai demandé cela. » Mais en fait, la Sainte Vierge, je n'ai pas eu une réponse de dénouement de tel nœud. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, me disent les personnes. En fait, la Sainte Vierge m'a montré comment j'étais partiellement acteur du nœud qui m'oppresse. Et elle m'a montré comment le défaire. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant.
Quel est, selon vous, le sens, dans nos sociétés actuelles, d'une telle neuvaine?
Faire cette neuvaine, c'est pas anodin, hein, c'est pas innocent. Il faut le vouloir et il faut persévérer. Pendant 9 jours, consacrer un minimum de 20-25 minutes à la prière, c'est pas tout le monde qui le fait. Et moi, ce que je vois, c'est que le fait de consacrer énormément de temps à la prière, eh bien, vous modifie en profondeur. Et je pense que le fait que dans notre monde trépidant, à l'occasion d'un problème, le fait de consacrer 25 minutes de prière du fond du cœur, on peut imaginer que ça donne, je veux dire, un certain retour à la foi. Ça peut initier un certain retour à la foi.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. Le Saint-Siège poursuit son opération Transparence. Ernest von Freiberg, le nouveau président de l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, entend passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre le blanchiment et satisfaire pleinement les attentes du groupe d'experts européens Moneval. L'industriel allemand a donné pour la première fois une série d'interviews à 6 journaux européens ainsi qu'à Radio Vatican. Une démarche qui intervient quelques jours après la présentation du rapport de l'autorité d'information financière, l'AIF. L'IOR va publier son bilan et d'autres documents à partir d'octobre sur un site internet pour une plus grande transparence et une plus grande ouverture vers l'extérieur, nous a dit Ernest von Freiberg. Le compte-rendu de Thomas Chabol.
Communiquer, le verbe revient souvent dans la bouche d'Ernst von Freiberg. Pour le président du IOR, c'est devenu en effet une priorité. Car auparavant, explique-t-il, nous n'avons pas su parler aux cardinaux, nous n'avons pas su parler à l'Église. Selon lui, les catholiques du monde entier ont le droit d'être bien informés sur l'institution. Une institution qui a renforcé depuis sa politique de lutte contre le blanchiment d'argent et qui s'est alignée avec les standards européens. Mais malgré tous ces efforts, Ernst von Freiberg constate que l'IOR continue d'avoir mauvaise presse. D'où cette idée de création d'un site internet sur lequel l'IOR communiquera à partir du mois d'octobre. L'Institut est par ailleurs en train de réécrire son manuel de détection des transactions suspectes avec l'aide d'un cabinet de consulting. Les comptes des 19 000 clients du IOR seront ainsi passés en revue. Chaque dépôt d'argent sera lui aussi examiné. Quant à l'existence de comptes numérotés qui cacheraient de grosses sommes d'argent auxquelles ne correspondent aucun nom, c'est de la pure fiction, répond Ernst von Freiberg. Depuis 1996, il est en effet techniquement impossible de mettre en place un dépôt de fonds numéroté dans le système du IOR. Le rêve de Freiberg est clair, que la réputation du IOR soit telle que les gens ne pensent plus à la Banque du Vatican quand ils pensent au Saint-Siège, mais qu'ils écoutent ce que dit le pape.
Je vous le disais en titre, la communauté chrétienne de Terre Sainte est à nouveau en émoi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des graffitis et des insultes anti-chrétiens en hébreu ont été tagués sur un mur de l'église de la Dormition, l'une des principales églises de Jérusalem. La police soupçonne des extrémistes religieux juifs. L'une des portes du cimetière grec-orthodoxe voisin a aussi été graffitée. Cet incident est le dernier en date d'une série d'actes de vandalisme contre des lieux chrétiens. Le patriarcat latin de Jérusalem a condamné cette nouvelle action, la qualifiant de tentative abjecte de miner la coexistence entre les croyants des trois religions. Pour Mgr Chomali, vicaire patriarcal pour Jérusalem, il faut absolument mettre fin à ces actes en favorisant une meilleure éducation des jeunes, notamment à l'école, même si cela prendra du temps. Il nous l'avait déjà dit au mois de février dernier. Écoutez.
On avait prévu que le 21e siècle serait irreligieux, mais je vois que la dimension religieuse est plus forte que jamais et qui se traduit parfois par du fanatisme. D'ailleurs, l'année dernière, en 2012, nous avons eu 20 actes de vandalisme anti-religieux, anti-chrétien, sur des monastères, des églises. Malheureusement, le fondamentalisme est en train de croître et d'augmenter partout. C'est vrai que parfois, c'est le fait d'une minorité, mais c'est une minorité agressive qui fait du mal. Et s'il faut chercher la raison, c'est l'éducation. L'éducation dans les écoles. Il faut la soigner un peu plus. Il faut toujours dénoncer ces écoles qui enseignent le fanatisme religieux. Et on a vu que les manuels scolaires, ici en Israël et en Palestine, donnent une figure faussée de l'autre. L'autre, c'est pour le juif, c'est le chrétien et le musulman. Pour le musulman, c'est le chrétien et le juif. Pour le chrétien, c'est le juif et le musulman. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans les écoles de Terre Sainte. C'est là que naît, croit, le fondamentalisme, l'extrémisme et le radicalisme.
Mgr Chomali, interrogé au mois de février à Jérusalem par Marie Duhamel. Plus récemment, le vicaire patriarcal s'est dit préoccupé par l'islamisation de Gaza, où vivent 1500 chrétiens, dont 200 catholiques. Plus globalement, le pourcentage de chrétiens en Terre Sainte a atteint son minimum historique, 2% en Israël, 1,25% en Palestine, 3% en Jordanie. En ce qui concerne la Syrie, il partage le sentiment de nombreux responsables chrétiens, je le cite, « Bachar el-Assad est un dictateur, mais mieux vaut une dictature que le chaos actuel. Fin de citation. Le Moyen-Orient était au cœur de la visite ce vendredi matin au Vatican du président de la 67e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Vuk Jeremić, ancien ministre serbe des Affaires étrangères, a été reçu par le pape François, puis par le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone, accompagné du secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Mamberti. Il a surtout été question des conflits internationaux qui touchent notamment le Moyen-Orient et qui entraînent une catastrophe humanitaire. Ces conflits doivent être réglés par des moyens pacifique. Autre dossier abordé, la traite et le drame des réfugiés. En ce qui concerne la crise économique, l'Assemblée générale de l'ONU devrait intervenir concrètement en faveur d'un développement durable qui respecte l'environnement et réduise le fossé entre riches et pauvres. Le Saint-Siège apprécie le rôle de l'ONU et espère que les valeurs défendues par l'Église catholique inspirent les débats et les décisions de l'Assemblée générale. À Paris, le parc floral de Vincennes accueille en cette fin de semaine la première convention nationale de l'enseignement catholique sur le thème « Avons-nous besoin de l'enseignement catholique ?». Dans un entretien au quotidien Français Lacroix, le secrétaire général Éric Delabarre estime que l'enseignement catholique doit à la fois instruire, éduquer et proposer la foi. Olivier Tosserie.
Près de 2000 personnes sont attendues pour cet événement qui réunira les représentants des communautés éducatives, des acteurs économiques et sociaux et les responsables publics. On parlera de mixité sociale, annonce de l'Évangile, insertion professionnelle, engagement citoyen. Éric Delabarre relève que du milieu des années 70 au début des années 90, la sécularisation a poussé les établissements catholiques à se rapprocher du modèle public. Aujourd'hui, selon lui, l'école catholique n'a de sens que si sa proposition éducative est originale. Selon le nouveau statut de l'enseignement catholique adopté mi-avril par la conférence épiscopale, l'évêque diocésain présidera désormais le comité directeur de l'enseignement catholique, alors qu'il participait seulement à ses travaux et les chefs d'établissement seront nommés par lui. Il ne s'agit pas du tout d'une reprise en main par les évêques, précise le secrétaire général. L'intention n'est pas de tomber dans la caricature d'une école catholique réservée aux catholiques, mais d'entendre les attentes d'un certain nombre de parents qui souhaitent leurs enfants dans la tradition chrétienne. Selon un sondage, les Français sont attachés à la qualité de l'enseignement catholique et trouvent normal, à une écrasante majorité, que les parents aient le choix entre le public et le privé. Il juge logique que l'État participe au financement, mais il pense qu'il reste des efforts à faire sur l'accueil des élèves en difficulté et l'accès des populations défavorisées.
En Belgique, le pape François a accepté la démission présentée par l'évêque de Liège, Mgr Justen, qui a atteint la limite d'âge. Contredisant les pronostics des médias belges, il a nommé pour le remplacer l'abbé Jean-Pierre Delville, actuellement professeur d'histoire du christianisme à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Le nouvel évêque de Liège est âgé de 62 ans. Il a effectué une partie de ses études à Rome, à l'Université pontificale grégorienne et à l'Institut biblique. Il a été entre autres recteur du séminaire Saint-Paul à Louvain, directeur de la revue d'histoire ecclésiastique et porte-parole de la conférence des évêques catholiques de Belgique. Il est aussi membre de la communauté Santé Gidio qui combat la pauvreté à Liège comme dans d'autres centres urbains et encourage l'éducation et l'accès aux soins de santé. Le quotidien Le Soir présente le nouvel évêque comme un intellectuel discret, de grande renommée, spécialiste incontesté de l'histoire des religions, mais aussi un homme de terrain, ancré dans sa ville et son époque. Au cours d'une conférence de presse, l'abbé Jean-Pierre Delville a souligné la surprise, la gratitude et la frayeur que cette nomination suscitait chez lui. Son ordination épiscopale aura lieu le 14 juillet. Le Saint-Siège a inauguré vendredi soir son pavillon à la Biennale d'art de Venise. C'est la première fois dans l'histoire de l'événement que le Vatican y participe. Le Saint-Siège a choisi le thème de la création. Trois artistes de renom ont accepté de relever le défi lancé par le Vatican. Une condition seulement pour ces trois créateurs, leur travail doit s'inspirer des 11 chapitres du récit biblique de la Genèse. Les œuvres sélectionnées doivent également dialoguer entre elles. Pour le cardinal Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture, c'est aussi une façon pour l'Église de reprendre contact avec l'art. Car, en effet, depuis maintenant bientôt 4 siècles, l'art et la foi chrétienne se sont éloignés. C'est le constat alarmant de Jérôme Alexandre, théologien, auteur de L'art contemporain, un vis-à-vis essentiel pour la foi, paru en 2010. L'Église s'est en fait adressée avec le temps à des artistes toujours plus académiques et moins créatifs. Jérôme Alexandre, interrogé par Thomas Chabol.
les derniers grands moments d'une relation de l'art dans sa dimension la plus créative, la plus forte, c'est-à-dire des grands artistes finalement avec l'Église, c'est le temps du baroque, donc c'est vraiment ancien. Il ne s'est plus passé grand-chose au 19e, et c'est effectivement une séparation qui s'est effectuée sans doute entre l'Église d'un côté, les thématiques chrétiennes dans la préoccupation des artistes, la commande est devenue relativement peu de choses, ou alors elle s'est adressée à des artistes qui étaient plus des artistes académiques que vraiment créatifs. La très grande liberté, les défis, le côté finalement très transgressif de tout un art moderne puis contemporain a rendu difficile le lien, en tout cas pour le monde chrétien. Ça c'est un fait indéniable et à mon avis regrettable. Il y a un véritable malentendu, on peut dire, qui s'est instauré entre l'art moderne puis contemporain et puis le monde chrétien. Alors il y a plein d'exceptions, il y a aussi des grands artistes contemporains qui ont été explicitement chrétiens, qui ont répondu à des commandes intéressantes. Je laisse ça de côté pour ne parler que de la tendance très large.
Est-ce qu'il y a toutefois un renouveau?
Moi je le crois pas. Il y a des expériences qui continuent à être intéressantes, tout ça, qui a un désir de l'Église de rattraper un peu le temps perdu ou de rattraper le train qui a pris sa vitesse de croisière. Ça, c'est possible. Maintenant, je pense que pour l'essentiel, les représentants de l'Église sont dans un éloignement par rapport à cette aventure, comprennent mal, sont très peu informés de l'histoire de l'art contemporain et de ses développements et de ce que sont les forces vives aujourd'hui dans la vie artistique. Et tout ça procède d'une grande difficulté qui est à l'intérieur du christianisme, dans sa théologie même. Une formidable érosion de la compréhension de l'importance de l'esthétique, de l'importance de la détermination sensible esthétique au cœur même de la révélation chrétienne.
Ces deux mondes ne sont donc pas vraiment en train de se réconcilier ?
C'est tout à fait frappant de voir pourquoi finalement se tourne le dos un univers artistique qui, à mesure qu'il s'est modernisé aujourd'hui dans l'espace contemporain, et le fait d'artistes qui sont en recherche de la vérité, du réel, et qui travaillent dans un très profond dépouillement à une traduction authentique du mystère du réel d'un côté, et qui sont préoccupés par les grands fondamentaux du mystère de l'existence, le temps, la vie, la mort, le corps sexué et naturellement Dieu, les artistes contemporains témoignent de ça tant et plus. Et de l'autre côté, l'Église, qui a été au XXe siècle par le Concile Vatican II, c'est-à-dire dans tout un mouvement de retour aux sources, de purification, finalement, ces deux mondes ne se rencontrent pas. Il y a d'un côté cette formidable religion qui dit, Dieu s'est incarné, Dieu rencontre le réel. On a de l'autre des artistes qui sont presque toujours agnostiques et qui travaillent de la même manière cette rencontre complètement exigeante avec le réel, et la rencontre ne se fait pas, au sens tout simplement d'une reconnaissance, d'une reconnaissance partagée. Je dirais que les artistes sont beaucoup plus, à la limite, tournés vers le patrimoine chrétien, vers l'Église, vers la reconnaissance de l'importance que la révélation chrétienne peut avoir, que l'inverse.
C'est plus, selon vous, une peur de l'Église, une peur d'aller à la rencontre de cet art contemporain, même si on le sait, il faut quand même faire un effort pour aller à la rencontre de l'art contemporain.
Il peut y avoir une peur, effectivement, qui subsiste sur tout ce que l'art contemporain continue à comporter d'assez transgressif, de difficile. Mais c'est plus profondément, je pense, une méconnaissance de ce qui est au travail dans cet art. Et le fait de ne pas voir, tout simplement de ne pas voir que ce qui se cherche dans l'art est proprement mystique. Et se trouve donc tout à fait aligné, en fait, avec ce qu'est la recherche spirituelle par ailleurs. Voilà. Ça, les chrétiens ne le voient pas. Ils sont sensibles à la vérité comprise sur le plan intellectuel. Ils sont sensibles à la vérité pratique qui s'appelle la morale. Mais ils ne voient pas qu'ils ont un trésor à portée de main, qui est l'expérience de lecture du réel et de recherche de la vérité que portent les artistes.
Le théologien Jérôme Alexandre, auteur de L'art contemporain, un vis-à-vis essentiel pour la foi. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de semaine à tous.